Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Frédéric Charpier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon. C'est une plongée au cœur de cette police des polices, assez secrète, souvent mal aimée d'ailleurs, à la fois de policiers qui apprécient pas toujours de l'avoir débarqué chez eux et qui freinent d'ailleurs parfois vos enquêtes, vous en parlez dans le livre, et de politiques ou d'observateurs qui eux lui reprochent plutôt son manque d'indépendance. Alors vous mettez un point d'interrogation, faut le préciser, hein, à une police au-dessus, une institution au-dessus de tout soupçon. Pourquoi vous mettez un point d'interrogation ?
Parce que ça dépend à quel moment de l'histoire de l'IGPN on prend l'institution en question. Si on remonte dans le temps, on peut effectivement considérer que le soupçon est légitime. Si on s'en tient essentiellement à l'IGS, il est parfois très légitime.
Inspection générale des
services. Inspection générale des services, qui a été une institution équivalente à l'IGPN, mais sur Paris, la région parisienne proche.
Oui, vous dites de l'IGS qu'elle était perçue comme un instrument d'exécution des basses œuvres administratives.
Ben ça, c'est moi qui le dis, mais parce que je reprends une expression d'autre, mais c'est les syndicats de policiers au début des années 80. Quand les syndicats disaient qu'elle était chargée des basses œuvres administratives, elle s'occupait pendant très longtemps, c'est elle qui a fait les enquêtes. Au départ, quand vous voulez rentrer dans la police, bon, on essaye de voir si le profil convient, si vous n'avez pas un casier judiciaire, si vous n'êtes pas trop de gauche, parce que, ou de gauche tout court. Donc c'est une institution qui avait accès à fabriquer elle-même ses propres archives, ses dossiers, etc. Elle était crainte parce qu'elle savait tout des gens, en particulier des gens qui entraient dans la police. Puis elle les surveillait, puis elle peut casser très facilement, elle pouvait très bien casser des carrières.
Alors ça, c'était avant, hein, vous le soulignez. 2012, donc, fusion IGS-IGPN pour créer ce grand corps national de l'IGPN. Et puis, il y a eu pas mal de bouleversements quand même. Ne serait-ce que le déménagement qui n'est pas anecdotique non plus. Quitter la place Beauvau, ça dit quelque chose.
Oui, c'est vrai. Bon, ben, c'était un service qui était un peu trop près du ministre, on va dire, du cabinet. Donc, facile pour les interventions, les gens rendaient compte facilement. Bon, quelque part, symboliquement, c'était on coupe le cordon. Voilà, on a un sentiment presque peut-être d'autonomie par rapport au pouvoir politique, bien que le pouvoir politique reste quand même très envahissant d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont remises à plus tard ou qui sont reportées ou déportées ou supprimées. Parce que le ministère, ça vient du ministère, le cabinet, ils veulent pas donner l'impression que la police serait un corps complètement gangréné, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs. Hein. Mais je veux dire par là le fait d'accumuler les affaires, donc il y a une sorte de dosage en ce qui concerne les enquêtes, ce qui prouve bien que la liberté d'action est réelle, mais elle est quand même assujettie.
Encadrée. Voilà. Ouais. Ou contrainte. Il y a une autre évolution qu'on a observée à l'IGPN ces dernières années, c'est la féminisation, notamment de la hiérarchie.
Oui, alors ça, c'est très intéressant. D'abord, c'est au-delà de l'IGPN, hein. La police se féminise depuis de nombreuses années. Alors, et c'est vrai que bon, l'IGPN est devenu un sanctuaire. Hein, parce qu'il y a d'autres services où il y a des femmes, notamment le renseignement.
La patronne de l'IGPN.
La patronne, c'est devenu quasiment maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, je veux pas m'avancer, mais on pourrait difficilement imaginer que la suivante soit un homme. Voilà.
Alors, on apprend aussi dans votre livre que l'IGPN dispose d'un certain nombre d'équipements, de moyens d'études aussi, un cabinet d'études notamment et de l'analyse. C'est quoi un cabinet d'études et de l'analyse à l'IGPN ?
Ben, c'est l'une de ses fonctions historiques principales. Au fond, l'IGPN, ça a toujours été un service de réflexion, d'investigation. C'est un service qui travaille beaucoup plus sur ce qui va pas dans la maison, qui fait des enquêtes de terrain, qui essaie de se projeter dans l'avenir. Moi, j'ai rencontré pas mal de flics.
Donc, c'est pas seulement les bœufs-carottes.
Bon, évidemment, ces derniers temps, tout a été polarisé là-dessus. On comprend pourquoi. Il y a eu un mouvement social qui a duré très longtemps. Il y a eu des violences, bon, qui étaient inhabituelles. Mais il y a surtout la réalité de cette institution qui n'est pas du tout qu'un cabinet de discipline. Par exemple, ce qu'on appelle la police de proximité, elle a été pensée, analysée, étudiée à l'IGPN.
Alors, Frédéric Charpier, on découvre aussi dans votre livre, enfin on le savait, mais que l'IGPN n'a pas toute autorité sur la police, puisque on le voit notamment dans l'affaire de Zineb Redouane, qui est cette femme qui est morte après un tir de grenade lacrymogène lors d'une manifestation à Marseille. Eh bien, que l'IGPN a d'abord demandé à ce qu'on lui fournisse un certain nombre d'éléments que la police a refusé de lui fournir, et que très récemment d'ailleurs, l'IGPN a demandé des sanctions que la hiérarchie a refusé d'imposer.
Oui, alors cette affaire-là, quand j'ai démarré mon enquête, c'est une des affaires sur lesquelles je me suis beaucoup concentré parce que, à mon avis, elle est exemplaire au niveau de la bavure. Là, on a une femme d'un certain âge qui ferme ses volets au quatrième étage, le jour d'une manif, elle participe à rien, elle crie pas, elle se manifeste pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'enquête a été plus ou moins, si vous voulez, entravée par les réactions d'un certain nombre de CRS, notamment au niveau de la hiérarchie. Mais parce que le chef, si vous voulez, du groupe en question, voulait prendre sur lui la responsabilité. Or, on peut pas juger quelqu'un qui a rien fait uniquement parce qu'il dit « c'est moi au final qui suis responsable, parce que je suis le parrain ». Entre guillemets, parce qu'il y a un système de parrainage au sein des CRS. Donc, ils ont été un peu tributaires de ce genre de comportement. Et dans cette affaire de Marseille, c'est quand même plus la justice qui est, à mon avis, fautive que l'IGPN qui a fait son travail.
Mais l'enquête continue. Il n'est pas dit que la justice, d'ailleurs, n'infirmera pas
qu'elle ira plus loin, parce qu'il y a sans doute des expertises qui devraient être faites. Bon, j'espère que ça... Je vois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de réticence au niveau du cabinet, enfin de la direction générale de la police, pour donner suite aux décisions qui avaient été prises en termes administratifs par l'IGPN.
Alors un dernier mot des effectifs, parce que vous citez les chiffres de la CFDT Police. En 2017, une enquête de l'IGPN prenait 163 jours en moyenne, sauf que ensuite se sont greffés là-dessus les gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de faire ce travail ?
Honnêtement, non. Non, ils sont un peu submergés, ça explique un peu... En plus, ils ont perdu quelques-uns de leurs policiers aussi, donc ils ont des effectifs aussi légèrement en baisse. Puis en plus, il y a de moins en moins de policiers qui ont envie. Mais c'est comme la PJ, hein. Il y a une crise aujourd'hui dans un certain type de police, bon, qui un peu ne fait plus recette comme elles auraient pu faire recette autrefois. Donc, ils sont démunis, mais ils font en fonction de...
Combien ils sont ?
Bon, 300 à peu près, en tout, mais ils font pas que ça. C'est un service qui fait plein de choses en même temps.
C'est ce que vous expliquez.
On l'a dit tout à l'heure, voilà. Mmh. Même s'ils sont pas tous affectés au même service.
Bien, merci Frédéric Charpier. Alors je rappelle que votre livre s'intitule IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon. Et on va rappeler qu'il y a un point d'interrogation après soupçon. Et je précise que ce livre est édité chez Albin Michel.